بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق دعاء القنوت موضعه، فالامبلاسمون الانبوار dans lequel on fait دعاء القنوت c'est après le recours. Ama le hadith dans lequel il est venu, il est dit que دعاء القنوت c'est avant le recours. C'est un hadith, même si jamais il est évoqué dans le recueil d'un imam muslim rahimahullah ta'ala, c'est un hadith dont les ulama ont jugé qu'il était faux et que c'était une erreur, comme c'est le cas de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi et qu'a dit après lui Ibn Rajab. Le hadith qui est sahih, comme l'a dit l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, les hadiths dans lesquels il est dit que le qunut il est fait après le ruku', ce sont des hadiths qui sont beaucoup plus fiables. On a pu voir aussi la divergence qu'il y a eu au sujet du hadith Allahumma hadina, Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, ila akhir hadith. Les ulama ont divergé sur ce hadith. Certains ont dit que c'est une dua que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a appris à Al-Hassan et Al-Hussein, et d'autres ont dit que c'est une dua qui lui a appris de dire pendant dua al-Qunut fil witr. Et sahih, l'avis le plus juste, c'est que le prophète lui a appris cette dua-là afin qu'il la dise à n'importe quel moment qu'il le veut. Et ce qui appuie cela, c'est que Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, le jour où le prophète il est mort, il n'avait que 8 ans. Donc, comme l'a dit l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, comment est-ce possible qu'il ait pu apprendre cette dua-là à un enfant de 8 ans et il ne l'a pas appris aux adultes parmi les muhajirines et l'ansar? Et quand on a pu voir que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à multiples reprises le witr, et pour autant personne n'a rapporté de lui qu'il a fait dua al-qunut. Kazalika, il a jeûné 9 ramadan. Et personne n'a rapporté que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, au cours des nuits dans lesquelles il est veillé, dans ces 9 ramadan qu'il a jeûné, qu'il faisait dua al-qunut. Kazalika, dans le hadith dans lequel il a réuni ses familles, les compagnons, ses enfants, ils ont veillé 3 nuits, et personne n'a rapporté que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'avait fait cela. Donc il n'y a pas de hadith qui prouve que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a fait dua al-qunut fil witr. Mais certains ont dit qu'il n'y a pas de mal à faire cela, car certains de sahaba l'ont fait. Ubay ibn Ka'b a fait le qunut en présence de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, kadalika. Il authentifie qu'Ibn Umar, radiallahu anhu, avait fait dua al-qunut. Enfin, il se peut que ces compagnons-là ont fait dua al-qunut parce qu'ils ont vu le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le faire. Wallahu a'lam. Enfin, il n'y a pas de mal à le faire, comme il n'y a pas de mal à ne pas le faire. Donc, personne ne doit réprimander l'un ou l'autre. Et personne ne doit juger sur l'affaire de l'un ou de l'autre, que ceci est une innovation ou pas. Quant à l'ajout, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilayka nas'a wa nahfid, ça c'est un hadith qui est plutôt un athar qui n'est pas authentique. Kazalika natawasa, on s'enjoint mutuellement de ne pas prolonger dans du'a al-qunut, comme c'est le cas dans certains pays, car il n'y a pas de preuve qui prouve cela, comme on peut le voir à travers les athar dans lesquels il a rapporté que les sahaba faisaient du'a al-qunut, c'était de manière concise. Ama quant au fait d'allonger les doigts, les invocations de doigts al-qunut, et qu'à de le faire en psalmodiant, il n'y a aucun hadith prouvant cela. Comme on peut le voir à travers l'athar de Sahaba, il le faisait de manière concise. Et la psalmodie dans les doigts, et rien ne prouve cela. Allah Azza wa Jal dit, Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufya, et faites-le avec humilité et avec discrétion. Donc le fait de le faire en observant la psalmodie dans les doigts, on demande aux personnes qui font cela avant de le faire, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayn la wa rasulihi wattaqullah, de présenter une preuve qui prouve cela, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les doigts, il le faisait en psalmodiant, ou que le sahaba lorsqu'il faisait cela le faisait en psalmodiant. Si c'est pas le cas, la meilleure des guidées est celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les meilleurs des hommes près des messagers sont les compagnons, et la meilleure des communautés est celle qui était présente dans les 3 siècles de lumière. Donc il n'y a rien qui prouve cela. On se doit de se limiter à ce que la religion nous a limité, et ne pas dépasser, et ne pas faire rentrer dans cela les goûts, les préférences et les avis. On se doit d'être suivi. La religion, c'est une religion de suivi, et non pas une religion d'innovation et de d'expérimentation et autres. فننصح, on conseille aux imams, ceux qui font du'a al-qunut, de se limiter à ce que faisaient les sahaba. قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Et si jamais ils croient de la même manière que vous avez cru, ils seront certes guidés. Fala guider à se limiter à des choses. Au sujet du prophète, alayhi wa sallam, et à ce qu'ont fait le sahaba. À ce qu'ont fait le sahaba. Natawasabi al-iktifa. Kama qala Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Qala rahimahullahu ta'ala ma yaqul fi akhir al-witr. Que doit-il dire à la fin du witr? قال ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده. Et nous dit رحمه الله تعالى, il fait partie de la sunna de dire à la fin du witr, que ce soit avant le salam ou bien après le salam, de dire اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. Ô Seigneur, je prends le refuge auprès de toi par l'intermédiaire de ton agrément contre ta colère. وبمعافاتك من عقوبتك. Et par l'intermédiaire de ta protection, de ton pardon contre ton châtiment. وَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Et je prends le refuge auprès de toi, contre toi. قَالَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. Je suis incapable de cerner comment véritablement te louer. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Tu es comme tu t'es toi-même loué. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Dawood et autres. Dans ce hadith, il est dit que le prophète, alayhi wa sallam, disait cela dans la fin du witr. Enfin, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que ceci est après le salam, ou bien avant le salam, comme il a mis entre parenthèses, qabl salam ou ba'dahu. Fa Sheikh al-Albani rahmahullah ta'ala, il a opté pour les deux options. Car le hadith, il est large. Fi akhir witrihi. Donc on peut comprendre que ceci est fait après le salam ou bien qabl salam. Il y a un hadith rapporté par Ismail ibn Ja'far al-Madani dans son recueil de hadith numéro 339. Et kadhalika dans l'Awsat de l'imam al-Tabarani rahimahullah ta'ala numéro 1992, dans lequel il est dit annahu kana yaqulu dhalika, que le prophète alayhi salatu wasalam disait cette dua là idha faragha min salatihi wa tabawwa madja'a, que le prophète disait cette dua là lorsqu'il avait fini la prière, donc après le taslim, wa tabawwa madja'ahu, et qu'il s'était installé dans son lit. Donc on comprend à travers ce hadith là que on doit le faire après le salam. Lakin, dans la chaîne de transmission de ce hadith, il figure Ibrahim ibn Abdillah ibn Abdin al-Qari rahmatullahi alayhi, et riwayatuhu an Ali mursala. Lorsqu'il rapporte de Ali, et c'est le cas ici dans ce hadith là, il a dit Ali a dit, le prophète a dit. Fa c'est une personne qui n'a pas entendu de Ali ibn Abi Talib, comme on peut retrouver cela dans le kitab Jami' al-Tahsil. Donc, il y a la chaîne de transmission est interrompue. Et parmi les conditions d'acceptation et de validation du hadith, il faut que la chaîne de transmission soit continue. Or là, elle est interrompue car Ibrahim ibn Abdillah ibn Abdin al-Qari n'a pas entendu de Ali ibn Abi Talib. Donc, le hadith ne peut pas être pris en considération. Donc, l'affaire reste telle qu'elle. Là, qu'il y en a un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, numéro 482. An Aishata radiallahu anha iltamasat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zata laylatin, que Aisha radiallahu anha, elle recherchait le prophète alayhi wa sallam durant une nuit, c'est-à-dire elle tâtait un peu à droite à gauche pour savoir où était le prophète alayhi wa sallam, parce qu'elle a ressenti qu'elle n'était pas à côté de lui. Qalat fa waqahat yadi ala qadamay wa huma mansubatan. Elle dit jusqu'au moment où j'ai senti ses pieds, jusqu'à ce que j'ai tâté et que mes mains sont arrivé sur ses pieds. Et ses pieds étaient mansoubatan, et ils étaient dressés, c'est-à-dire qu'il était en sujoud, qu'il était en prestation. قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Dans ce hadith-là, on a un indice qui nous prouve qu'il disait cela avant le salam. Là, il a dit dans le sujoud. Et c'était dans une prière de nuit. Donc ceci nous prouve que le prophète, alayhi wa sallam, le faisait avant le taslim. Wallahu a'lam. Inni a'oud birdak min sakhatik. Wallahu a'lam, elle est dite dans le sujoud, comme on le voit ici. Dans la prostration, il l'a dit. Ça, c'est sûr et certain. Certains ont évoqué que, comme l'imam Sheikh Mugba, rahimahullah ta'ala, qu'il était bon d'ajouter cette duha là. Allahumma inni a'oud bika birdak min sakhatik. Après avoir dit Allahumma hadini fi man hadayt ila akhirah, lakin on a pu voir que ce hadith-là n'est pas attribué au prophète alayhi salatu wasalam, et c'est-à-dire qu'il n'a pas enseigné de dire ce hadith-là durant le 8 heures. Durant le 8 heures. Enfin, celui qui le dit après le 8 heures, wallahu a'lam, je pense qu'il n'a pas de mal. Mais il faut savoir que le hadith est venu dans ces termes-là, et il l'a dit lorsqu'il était en prosternation. Enfin, en conclusion, cette du'a-là, Allahumma inni a'udhu bi ridhak min sakhatik ila akhirih, peut dire cette du'a-là dans trois endroits. On le dit avant le salam. Et le mieux, c'est de le dire dans la prosternation, comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wasalam, et le hadith, il est clair et net dans cela, dans l'assise de tashahhud, ou bien dans du'a al-qunut, qui est l'avis le plus faible, car le prophète, comme on a pu le voir, rien ne prouve qu'il a fait du'a al-qunut. Wallahu a'lam. Dans ce hadith-là, il est dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, prenait le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais et l'intermédiaire de son agrément contre sa colère, de sa protection contre son châtiment, de lui contre lui. On peut comprendre qu'on prend la protection auprès d'Allah contre lui. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Wal khayru kulluhu biyadik » et le bien, dans son intégralité, vient de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas prendre le refuge contre lui, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bien. Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, il apporte une explication qui est saine et bonne à ce hadith-là. Il dit « La yajouz an yusta'ad bi dhatillah subhanahu wa ta'ala al-qadima et al-azaliya » Il est impossible de comprendre que le prophète alayhi salatu wasalam a pris le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Allah. Il dit qu'Allah, c'est impossible de penser cela. « Qala wa hada la yajouz an yu'taqad anna rasul sallallahu alayhi salam qasadahu » C'est impossible de penser que le prophète alayhi salatu wasalam a voulu dire cela. قال ولكنه لما أراد أن يستعذ من الأشياء بأضدادها لكن النبي صلى الله عليه وسلم à travers cette dua-là a voulu prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la chose et son inverse. Par le biais de la chose et son inverse. Je demande le refuge auprès de toi par le biais de ton agrément contre ta colère. Comme par exemple, je prends le refuge auprès de toi par l'intermédiaire de ta patience contre le fait que tu empresses sur moi ton châtiment. من كذا بكذا إلى آخره لا يبكي بكل شوز. قال فقال فلما كانت عداد يطول. Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام il a vu que évoquer les choses et son inverse, il y en avait énormément et que ça allait prendre du temps et que le mieux dans les doigts c'est d'être bref et concis. فقال أعوذ بك منك أي بما صدر منك من عفو مما يصدر منك من عقوبة. Et il a voulu dire, يعني de manière concise, je prends le refuge auprès de toi, par l'intermédiaire du bien qui vient de toi, contre le refuge de ton châtiment. Et l'explication, on peut la retrouver dans le livre qui s'appelle Kashf al-Mushkil de l'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh. Ibn Qayyim, rahmatullahi ta'ala, invoque comme fa'ida, à travers ce hadith-là, anna shar alladhi yusta'adhu min, que le mal auquel on demande la protection contre, naw'an, il est de deux catégories. نوع موجود يطلب رفعه, une catégorie qui est dite du mal qui est présent, qui t'a touché, dont tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'ôte et te l'allège. قال ونوع معدوم يطلب بقاؤه, une catégorie qui n'est pas présente, dont on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle reste dans son endroit, c'est-à-dire dans le néant, afin qu'elle ne te touche pas. On aurait pu dire نوع متوقع, et une catégorie dont tu as peur d'être touché. Donc tu demandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'en être épargné. Donc lorsqu'on demande le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre une chose, c'est soit contre une chose qui nous a touché, dont on veut être soulagé et allégé, ou bien contre une chose dont on craint d'être touché, donc on demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'en être épargné. Et on peut retrouver cette parole-là dans son kitab al-Bada'ir. Rahmatullahi alayh. Qa rahmahullah. Qa wa sallama min al-witr. قال سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته وبرفع في الثالثه ايدي رحمه الله تعالى lorsqu'il a terminé la prière après le taslim, il doit dire trois fois سبحان ملك القدوس. القدوس c'est-à-dire celui qui est pur, c'est un synonyme de سبحان, c'est-à-dire que par cette formulation là tu purifies la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le glorifies contre le mal qui est dit contre le mal qui lui est imputé. Contre le mal qui lui est imputé, comme c'est le cas des Yahoud qui disent que Allah Azza wa Jalla est avare, comme c'est le cas des Nasara qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant et a une femme, comme c'est le cas de ceux qui disent que Allah est dans tous les endroits. Enfin, lorsqu'on dit subhanahu malik al-quddus, c'est une purification contre ces mauvaises paroles qui sont dites sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sunna, il nous dit, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on finit le witr, de dire cette dua-là. Et le hadith, il est rapporté, comme il a dit Hahouna, dans Sahih Abi Dawud, le numéro 1267. Et comme il a dit, dans la troisième reprise, il lève la voix. Donc dans les deux premières reprises, il le dit avec discrétion, et à la troisième reprise, il élève un peu la voix. Il élève un peu plus la voix dans la troisième reprise. J'ai fait l'Ausat, l'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, an Ubay ibn Ka'b, et qu'à l'écart dans le sahih de Ad-Dar al-Qutni, rahmatullahi alayhi, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait rajouté à ce dire-là, subhanaka malik al-Quddus, thalatha marrat, reprise, à la troisième reprise, il a dit, Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Enfin, à la troisième reprise, on dit, subhana malik al-Quddus, Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Subhana malik al-Quddus, Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. En élevant la voix, naham. Cet ajout-là est authentique. قال رحمه الله تعالى الركعتين بعدها des deux unités de prière qui sont observées après le witr. Est-ce que j'ai le droit après le witr de pouvoir rajouter encore? Ça c'est la mas'ala. Tel est le sujet qui veut soulever هنا. قال وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. Il nous dit رحمه الله تعالى et il est légiféré que le musalli, que le abd, le serviteur, rajoute deux unités de prière après le witr. Car ces deux unités de prière sont authentifiées. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi l'a fait comme on a pu le voir, à travers le hadith dans lequel il avait prié 11 unités de prière. C'est-à-dire lorsqu'il avait prié 8 d'un coup, ensuite il s'était assis, il a fait le tashahoud, ensuite il s'est levé, il a ajouté une unité de prière, donc ça faisait 9, ensuite il s'est assis, il a fait le tashahoud, il a fait le taslim, et ensuite il a pris deux unités de prière après cela, lorsqu'il était assis. Ce hadith-là nous prouve qu'on a le droit de prier deux unités de prière après le witr. De prier deux unités de prière après le witr. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et aussi il a ordonné sa communauté de le faire. Qala inna hadha, il a dit dans un hadith, inna hadha safar. Qala inna hadha safar jahdun wa thiqal. Le voyage est une fatigue et une charge. Qala fa idha awtara ahadukum, lorsque l'un d'entre vous prie le witr, fal yarka rak'atayn, qu'il prie deux unités de prière après le witr. Qala fa in istayqadha wa illa kanata lahu. Et le hadith est rapporté par Ibn Khuzaymah et d'autres. Naam. De ce hadith-là, il est dit, Awalan, que il est possible de prier le witr en voyage, et que ceci est une sunnah. Et que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a fortement recommandé de rajouter deux unités de prière au witr. Pourquoi? Qala fa in istayqadha wa illa kanata lahu. Ces deux unités de prière qu'il aura priées directement après le witr suffiront comme un qiyam al-layl. Pourquoi il dit cela? Parce que, comme il a évoqué auparavant, il a dit que le voyage est une fatigue et une charge. Et l'insan, il se peut que il prie l'isha, ensuite il s'endort et il se dit peut-être au courant de la nuit je vais me lever et puis je vais faire qiyam al-layl. Lakin, il se peut qu'il n'a pas la force pour cela. Pourquoi? Parce que le voyage l'a peut-être fatigué. Donc il est dit par précaution et dans le but de ne pas se contenter de faire juste une unité de prière durant la nuit, eh bien faites le witr et ensuite faites deux unités de prière. Si jamais tu te lèves et que tu rajoutes en plus, ben c'est bien, alhamdoulilah. Mais si jamais tu n'as pas la possibilité, tu ne t'es pas levé, et eh bien ces deux unités de prière que tu as priées directement après le witr te suffiront. Enfin, ce hadith-là nous prouve qu'on peut rajouter aussi, après le witr, deux unités de prière. Hada ja'izun. Certains des compagnons, comme c'est le cas de Uthman ibn Affan, de Ali, de Sa'd ibn Waqas, d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Umar et d'Ibn Abbas, si jamais ils faisaient le witr et ensuite ils allaient se coucher et que Allah Azza wa Jalla leur a facilité le fait qu'ils se lèvent au cours de la nuit, eh ben, ils annulaient le witr. C'est-à-dire qu'ils priaient un autre witr, afin que ça fasse un nombre pair. Ensuite, ils priaient ce qu'ils pouvaient comme prière, ensuite ils faisaient un autre witr. Donc ça veut dire qu'ils faisaient trois witr. Donc un witr, ensuite ils allaient se coucher. Ils se sont levés, donc ils ont annulé leur witr. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient une unité de prière. Afin que, avec le witr qu'ils ont fait avant de se coucher et le witr qu'ils ont fait après se coucher devienne un nombre pair. Ensuite, ils priaient ce qu'ils priaient pendant la nuit, et ensuite, et prier un autre witr à la fin. Ça a été authentifié de certains des sahaba. Et d'autres, parmi les sahaba, comme c'est le cas de Ammar ibn Yasser, et Haïd ibn Amra, ou Aïcha radiallahu anha, ils n'annulaient pas le witr. C'est-à-dire que lorsqu'ils priaient le witr, et ensuite ils allaient se coucher, et que Allah Azzawajal leur a facilité le fait de se lever, eh ben ils priaient, mais d'un nombre pair. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Sans annuler, sans faire un autre witr, afin que ça devienne pair, et ensuite à la fin rajouter un autre witr. Ben Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a été questionnée au sujet de l'affaire de Sahabi qui annulait le witr par un autre witr, elle disait Hada rajulun la'iba bi witrihi. C'est quelqu'un qui s'amuse avec son witr. Il prend un witr, ensuite il rajoute un autre witr pour que ça devienne pair, ensuite il rajoute un troisième witr. Elle dit ça c'est un amusement. Hada rajulun la'iba bi witrihi. Et la vie qui est le plus juste dans cette mas'ala là, c'est la parole de Aïcha radhiyallahu anha. Ça c'est la vie le plus juste, comme l'a dit Aïcha. Car si tu fais ça, c'est un amusement avec ton witr. Je prie un witr, je vais me coucher, ensuite je prie un autre witr, afin que ça fasse un nombre pair, et ensuite, je rajoute un troisième witr. Et ce qui prouve cela que c'est la vie le plus juste, la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la witrana fil layl. La witrana fil layl. Il n'y a pas deux witrs dans une soirée. C'est interdit de prier deux witrs dans une et même soirée. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 439. Donc ça c'est la vie le plus juste. Qu'est-ce que je fais si jamais j'ai prié le witr, ensuite je suis parti me coucher et au courant de la nuit je me suis levé. Est-ce que je l'annule? Non. Pourquoi? Parce que si jamais je fais cela, j'aurais prié deux witrs dans la nuit. Donc que dire de ceux qui prient trois witrs dans la nuit? Donc ce hadith-là nous prouve que ceci était un effort d'interprétation de certains de sahaba. Et que le hadith, la witrana fi layla, il n'aurait pas parvenu. C'est impossible autrement. Donc, la witrana fi layl, on fait attention, des fois, à certains frères, surtout ici à Djibouti, dans les 10 derniers jours, ils prient avec l'imam dans le début de la soirée, 11 unités de prière. Ensuite, ils prient avec un autre imam, dans les derniers tiers de la nuit, 11 unités de prière. Enfin, là, il a prié combien? 22 unités de prière. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qabla an tusbihu. Et on doit conclure nos unités de prière par un nombre qui est impair. Et en plus, dans le hadith, il est dit, la witrana fi layla, et lui, il a prié deux witr. Donc, les personnes qui souhaitent, et on est s'adonner à ce genre de prière-là, c'est-à-dire de prier deux fois dans la nuit, eh ben, ils prient avec l'imam, mathalan, le premier imam, ils prient 11 unités de prière, et ensuite, avec l'autre imam, dans l'autre moitié de la nuit, ils prient d'un nombre qui est pair. Lorsque l'imam, il va faire le witr dans le dernier moment de la nuit, eh ben, toi, tu ne fais pas le witr. Parce que si jamais tu pries avec le huître, tu auras pris deux huîtres dans une même nuit. Et le prophète a interdit cela. Donc tu pries avec lui un nombre qui est pair. Comme ça, tu auras pris 11 et 10 avec l'eau, ça fera 21. Donc ça fera un nombre qui est impair. قال رحمه الله تعالى قال من السنة أن يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. Et il fait partie de la sunna de lire dans ces deux unités de prière. Qui sont pris après le witr, dans la première unité de prière de lire Ida Zunziatil Anduzin Zalaha, et dans la deuxième de lire Kuniya Yuhal Kafirun, comme on a pu le voir dans le hadith précédent dans lequel il avait pris 11 unités de prière, 8 d'affilée. Après la 9e, il s'est assis et il a prié 2 unités de prière dans laquelle il a lu dans la première Ida Zunziatil, dans la deuxième Kuniya Yuhal Kafirun. Naam. Kadalika min al-masail, parmi les fawaïd qu'on rajoute, hauna, les deux unités de prière qui sont priées après le witr, dans laquelle on lit dans la première Sourate Al-Zalzala, dans la deuxième Sourate Al-Kafirun. Il faut savoir que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'est adonné à ces deux unités de prière de deux manières, concernant le ruku'. La première kifia, le premier descriptif, comme on a pu le voir, c'est qu'il a prié ces deux unités de prière en étant assis. En faisant le ruku', en étant assis. C'est-à-dire le ruku', il se baisse un petit peu, et pour le sujoud, il va directement au sol. Donc ça, c'est authentifié dans la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le numéro 436, dans lequel il faisait ces deux unités de prière en étant assis, et il faisait le ruku' kadalika en étant assis. Dans une autre version de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, numéro 438, il est dit que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié ces deux unités de prière en étant assis, lakin lorsqu'il a voulu faire le ruku', il s'est levé, et il a fait le recours en étant debout. Donc là, on a deux descriptifs, deux manières de faire. Par rapport au recours, tu as deux manières de faire. Si tu veux, tu fais le recours en étant assis. Ou si tu veux, tu fais le recours au moment où tu veux faire le recours, tu te lèves et tu fais le recours debout. tu as le choix de faire ceci ou bien cela. Pour conclure, inchallah, cette épître-là, on va rajouter encore une mas'ala, un sujet. Quel est le mieux? Est-ce le fait de prier debout ou bien le fait de prier assis pendant qiyam al-layl, pendant les prières de nuit? Car il est venu le hadith dans lequel Aïcha a dit وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا. Dans certaines nuits, il priait assis, dans certaines nuits, il priait debout. قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. Et lorsqu'il priait debout, eh ben, il faisait le rukou' en étant debout. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. Et lorsqu'il priait assis, eh ben, il faisait le rukou' en étant assis. Et le hadith est rapporté par Muslim rahmatullahi alayh. Donc lequel des deux est mieux? Est-ce le fait de prier debout ou bien le fait de prier assis? Tu as le droit de prier salat al-layl tout en étant assis, du début jusqu'à la fin. Comme tu as le droit de prier salat al-layl du début à la fin en étant debout. Lequel des deux est mieux? As-sahih, c'est le fait de prier debout si jamais tu en as la possibilité. On parle de celui qui a la possibilité d'être debout. Mais la personne qui est malade, qui a un problème à la jambe ou bien au dos, qui ne peut pas rester debout et qui s'assoit, enfin, lui, ça le concerne pas. Parce que cette personne-là doit prier assis. Car s'il prie debout et que ça lui cause du tort, enfin, il est asim. Il a un péché. Car le prophète, il a dit, la darar wa la darar. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'insan, il doit pas se causer du mal. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hada din yusrun. Cette religion est une religion de facilité. Là, on parle pour la personne qui a la possibilité de prier debout et qui a le choix de prier assis. Est-ce le mieux pour lui de prier debout ou bien de prier assis? As-sahir, le mieux pour lui, c'est de prier debout. Car il y a beaucoup plus de récompenses. Dès le hadith au fidalika, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, faqala, min hadith Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, qala, sa'altu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai questionné le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en salat al-rajul qa'idan, concernant la prière de la personne qui prie assis, alors qu'il a la possibilité de prier debout. Faqala, fa'in salla qa'iman, fahuwa afdal. S'il prie debout, c'est mieux pour lui. قال من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. Et celui qui prie assis aura la moitié de la récompense de celui qui aura prié debout. ومن صلى متجعا, et celui qui priera allongé, فله نصف اجر القاعد, il aura la moitié de la récompense de celui qui aura prié assis. Donc ça nous prouve qu'on peut prier les prières de nuit tout en étant debout, assis ou bien allongé. Tu as le droit aussi de prier allongé. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ce qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, ça fait partie du dhikr, de l'évocation. Wa aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière afin de te rappeler de moi, de me mentionner. Enfin, ce hadith-là, plutôt cette ayah-là, nous montre que il est tout à fait légiféré. Et ça, c'est pour les prières qui sont surérogatoires. Pas les prières qui sont obligatoires. Qui peut prier debout, assis, ou bien allongé, et lorsqu'il a la possibilité. Mais celui, comme on a pu voir, qui n'a pas la possibilité de prier que en étant allongé, comme c'est le cas des personnes qui sont hospitalisées, il prie allongé. Et il doit prier allongé. Celui qui peut pas prier debout, il y en a là, il se rajoute pas sur lui des charges, et il prie assis. Là, on parle pour la personne qui a la possibilité, qui est en bonne santé, mais qui prend l'option et le choix de prier assis ou bien allongé. On dira que le mieux pour toi, c'est de rester debout. Car si jamais tu le fais assis, tu auras la moitié de la récompense de celui qui a prié debout. Et si tu le fais allongé, tu auras la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Ainsi se termine l'étude de cette noble épître, Qiyam Ramadan de l'imam Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et concernant le chapitre Al-Irtikaf, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, on le laisse pour une prochaine fois. Vu que la plupart d'entre nous sont privés des masajids et que l'Irtikaf est fait dans les masajids. Et alhamdulillah, on a déjà évoqué ce sujet-là. Donc, yani, pour les personnes qui souhaitent connaître les règles et les jugements concernant l'irtikaf, ils reviennent aux durus dans lesquels on a évoqué ce sujet-là. Quant à moi, inshallah, tabarak wa ta'ala, on va se contenter de cela dans cet épître-là. Nasallahu azza wa jal an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na, demande Allah azza wa jal qui nous rend bénéfique ce qu'on a pu apprendre et lire dans ce chapitre-là, ce noble chapitre-là. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Et qui nous place parmi ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la mettent. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.